au diacre Bernard Litzler, nous en avons entendu l'homélie ce matin. Merci au chœur grégorien que nous entendons en ce moment sous la direction de Marie Mottet qu'on a également entendu à la harpe. Merci au chanoine Xavier Yamehogo qui assurait la coordination logistique, ainsi qu'à Stéphane Tornard et Bastien Testori pour la captation sonore de l'RTS, ainsi qu'à l'équipe de Clean Feed sous la direction de Fabrice Junot pour la captation image de cette célébration. Je signale encore, puisque nous célébrons aujourd'hui ce dimanche des médias et qu'à l'instant va se faire la bénédiction finale de cette liturgie, dimanche des médias en soutien à l'activité médiatique de l'Église, vous pouvez encore voter aujourd'hui pour départager les 4 candidats du prix Good News, un prix qui distingue un projet journalistique qui a spécialement contribué à diffuser la bonne nouvelle, avec un B majuscule par de bonnes nouvelles dans les médias. Ça se passe sur le site 4.ch. Vous pouvez encore voter aujourd'hui. À vous qui nous avez suivis sur RTS2 ou en streaming sur 4.ch, je vous souhaite une bonne suite de matinée. Et pour ceux qui nous suivent sur RTS Espace 2, je signale que nous allons poursuivre cette matinée avec le culte. Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, vous rendre sur 4.ch pour y retrouver l'homélie de ce qui a été prononcé ce matin par Bernard Litzler. À la réalisation de cette messe radio, il y avait Stéphane Tornard. Merci encore à Catherine Cudry, notre attachée de production, Marie-Estelle Perrin, pour le web et la diffusion de l'homélie. Voilà. Il est temps de passer la parole à nos collègues de Mediapro pour la présentation du culte à la cathédrale de Lausanne. C'est vous qui allez assumer cette présentation, Mathias Wirtz. Je vous souhaite le bonjour.
Bonjour Fabien, bon dimanche à vous et bon dimanche aussi à ceux et celles qui étaient avec vous à Saint-Maurice pour la messe en ce dimanche des médias. Nous poursuivons, nous, avec la célébration dans la tradition réformée. Nous sommes à la cathédrale de Lausanne ce matin et c'est donc l'heure du culte sur RTS Espace 2.
Le culte, Mathias Wirtz.
Avec aussi Laurent Deschanet à la prise de son et Bastien Testori en régie. Une question ce dimanche qui suit l'Ascension. Comment repérer la présence de Dieu dans nos vies? Une sacrée question. On peut ouvrir grand les yeux, les oreilles, les bras, sans pour autant découvrir Dieu, sans le ressentir ou le toucher, c'est certain. C'est que Dieu est rarement là où on l'attend. Et le récit du prophète Élie, qu'on entendra dans un instant, va l'illustrer. Dieu n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le tremblement de terre ou dans le feu, non. Il se donne à rencontrer dans la vulnérabilité d'une parole. Une parole dont certaines et certains ont fait mystérieusement l'expérience, et cela même ici à la cathédrale de Lausanne. Oui, oui, ces personnes en ont laissé une trace écrite sur le tableau de prière mis à leur disposition dans cet édifice gothique. Un livre a été tiré de toutes ces paroles et une exposition a lieu actuellement pour les documenter et les illustrer. L'autrice du livre et l'instigatrice de cette exposition se partageront la prédication au cours de ce culte. Bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin. Les deux femmes dont je vous parlais et qui dialogueront donc la prédication, ce sont Lynn Desprats et Aurélie Netz. Lynn Desprats est pasteur depuis une demi-douzaine d'années. Elle est en charge à la cathédrale de Lausanne d'un ministère qui tisse des liens entre la spiritualité, la culture et la société. Auparavant, elle a aussi été pasteur en paroisse, puis membre de l'autorité exécutive de l'Église réformée vaudoise. Aurélie Netz, quant à elle, elle est anthropologue, mais elle est aussi animatrice d'église dans cette même église réformée vaudoise, notamment auprès de jeunes et pour la formation. Mais je vous parlais tout à l'heure de parole, eh bien celle des lectures bibliques, elle sera portée par Roger Clerc. Mais il n'y aura pas que de la parole ce matin au cours du culte. La Sainte Cène sera aussi célébrée et il y aura également de la musique. L'organiste titulaire de cette cathédrale de Lausanne est avec nous, c'est Jean-Christophe Geiser. Et les vocalistes romans sont là aussi, des vocalistes dirigés par Renaud Bouvier pour interpréter des motets de musiciens qui ont précédé le grand Jean-Sébastien Bach comme cantor à Saint Thomas de Leipzig, des œuvres signées de Johann Hermann Schein et Johann Schelle. Mais à tout seigneur, tout honneur, place d'abord à Bach himself, le 5e évangéliste, disent certains, avec à l'orgue son prélude en mi mineur, BWV 548.
Si le Christ est né comme un fils de la terre, s'il a vécu et qu'il est mort comme un fils d'homme, s'il est ressuscité par la grâce du Père, s'il est monté dans les cieux, s'il est absent de nos yeux, amen.
Le chant Auprès du Père, il est monté dans le recueil Alléluia, le 34-28.
Chers amis, vous qui êtes mes frères et mes sœurs en Christ, c'est avec joie que je vous accueille pour ce culte que nous célébrons ensemble et que je vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale. Une bienvenue toute particulière ce matin à Aurélie Netz, avec qui je dialoguerai la prédication. Vous l'avez entendu, Aurélie est anthropologue. Elle a étudié environ 3500 prières qui ont été rédigées ici même et déposées sur le panneau ad hoc près de la chapelle Montfalcon. Ce sont ces petits post-it de toutes les couleurs qui vous accueillent. Le résultat de son étude a donné lieu à la rédaction d'un livre, Prier à la cathédrale de Lausanne, et à l'exposition Les couleurs du souffle, qui est à découvrir ici même jusqu'au 24 juin. Bienvenue Aurélie. Bienvenue à vous aussi, les vocalistes romans, sous la direction de Renaud Bouvier. Merci du fond du cœur d'être présent avec nous ce matin. Bienvenue enfin à vous toutes et vous tous qui avez fait le chemin jusque dans cette cathédrale, comme à vous qui nous rejoignez par la voie des ondes. Où que vous soyez, sentez-vous accueillis. Loin des yeux, près du cœur, dit l'adage. Loin des yeux, nous sommes en communion de pensée les unes avec les autres. Pour poursuivre notre culte, je vous invite à entendre le psaume 116. Je vais en lire le début, avant d'entendre la suite être interprétée par les vocalistes romans. J'aime le Seigneur car il entend ma voix suppliante. Il a tendu vers moi l'oreille, et toute ma vie je l'appellerai. Les liens de la mort m'ont enserré, les entraves des enfers m'ont saisi. J'étais saisi par la détresse et la douleur, et j'ai appelé le Seigneur par son nom. De grâce, Seigneur, libère-moi, ai-je dit. Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu fait miséricorde. Le Seigneur garde les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvée. Retrouve donc le repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Je vous invite à dialoguer notre prière. Christ plus grand que la haine. Christ plus grand que le mal. Christ plus grand que la nuit. Christ plus grand que le mensonge. Christ plus grand que la mort. Christ dont le nom surpasse tous les noms.
Le chant qui suit est dans le recueil Alléluia, le numéro 4101.
Pour entrer dans le temps liturgique de la parole, nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, tu te fais proche de nous. La parole sans cesse nous rappelle cette bonne nouvelle. Nous t'en prions que ton esprit ne te lasse pas de souffler. Nous ouvrons le livre pour nous rappeler que nous existons pour toi. Et cela suffit pour nous tenir debout devant toi, libres, afin qu'en nous naisse le désir de marcher à la suite de Jésus le Christ, en vivant ta parole au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, aujourd'hui, demain et tous les jours. Amen. De l'Ancien Testament, nous lisons au premier livre des Rois, au chapitre 1. Le roi Achab apprit à Jézabel, son épouse, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait massacré par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et encore cela, si demain à la même heure je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la leur. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur. Lui-même s'en alla au désert à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus maintenant, Seigneur. Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Il regarda à son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. Acclamons la parole de Dieu. Poursuivons la lecture au premier livre des Rois. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. » Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. » Voici, le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Louange à toi, Seigneur.
Un homme d'engagement, un homme de valeur et de conviction, un homme de Dieu. Quand on l'évoque souvent avec tendresse, parce qu'on relit son parcours du point de vue de sa fragilité, de sa dépression et de sa résilience. Vous excuserez l'anachronisme de ces mots. Mais c'est probablement ainsi que l'on nommerait aujourd'hui ce qui lui est arrivé. On relit donc son histoire avec compassion, avec émotion aussi, tout particulièrement quand on se représente ce moment si mystérieux où devant la caverne, il se voile car Dieu vient le rencontrer. Et selon la croyance de l'époque, on ne peut pas voir Dieu face à face. Élie, c'est tout cela, bien sûr, mais c'est aussi un prophète qui, fort de ses convictions, a tué au nom de son Dieu. Ce n'est ni le premier ni le dernier, me direz-vous, mais cela n'excuse rien. Et l'actualité ne cesse de me convaincre que la violence au nom de son Dieu, quel qu'il soit, n'est légitime en aucun lieu, ni d'aucune façon. Bien malin qui pourrait dire aujourd'hui jusqu'à quel moment Élie s'est senti pleinement légitime dans son combat pour le Dieu qu'il aimait. Toujours est-il qu'après avoir commis nombre de meurtres, le voilà contraint de se cacher. Pour cela, il s'enfuit dans le désert, apeuré, exténué. Ayant touché le fond, je l'évoquais, il va jusqu'à demander à Dieu de lui reprendre la vie parce qu'il n'en peut plus. Il veut juste mourir. Comme souvent, Dieu ne l'entend pas de cette oreille. Si bien qu'un ange est dépêché auprès d'Élie pour le nourrir, le désaltérer. Et lorsque ce dernier est suffisamment requinqué, comme on dit chez nous, eh bien il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne du Seigneur. 40 jours et 40 nuits. 40, ce chiffre que l'on retrouve tant de fois dans la Bible, et cette récurrence, elle est précisément le signe qu'il ne faut pas lire ce chiffre au premier degré. Toujours dans la Bible, quand un chiffre se répète, c'est qu'il n'est pas là pour nous renseigner sur une durée temporelle précise, mais qu'il est à comprendre symboliquement et qu'il nous invite à réfléchir à ce qui est en train de se passer durant un laps de temps qui, au final, ne compte pas tant que ça. Il y a les 40 jours du déluge pour Noé, qui débouche, vous vous en souvenez, sur la Nouvelle Alliance et cette promesse qu'il n'y aura plus de déluge voulu par Dieu pour sanctionner les humains. Il y a les 40 ans dans le désert qui voient le peuple des Hébreux passer du statut d'esclave en terre égyptienne à celui de peuple libre. Et à l'intérieur de ces 40 ans, les 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir de Dieu les 10 paroles, ces commandements qui verbalisent un nouveau mode de relation à Dieu et aux autres en décrivant les clés d'un vivre ensemble social. Il y a encore les 40 jours que Jésus passe dans le désert à lutter contre les tentations avant d'entamer un ministère public basé sur la rencontre, l'amour, le pardon. Chacun de ces épisodes, chacune de ces durées révèle en fait un processus de transformation un changement de paradigme. Les acteurs en jeu se découvrent à chaque fois une sorte de nouvelle identité qui débouche immuablement sur une nouvelle relation avec Dieu et avec les autres. Nous sommes au cœur de cela aussi avec Elie, qui reprend des forces avant de marcher durant ces fameux 40 jours et 40 nuits. Et c'est là que j'aimerais passer la parole à Aurélie Netz, qui fait le lien entre ce temps de maturation, ce temps de transformation et la pratique de la prière.
La cathédrale est une maison de prière. Durant plusieurs mois, les visiteurs ont déposé quelque 3500 intentions de prière sur le tableau d'affichage, juste derrière vous, devant la chapelle de Montfalcon. Une maison pour faire halte, griffonner quelques mots essentiels, tendre l'oreille du cœur et repartir. Dans les mots que j'ai lus, comme dans l'histoire d'Elie, tout part d'un questionnement. L'harmonie n'est plus de la partie. Ça peut être une maladie qui frappe, une séparation, un coup du sort. Soudain, le monde ne tourne plus rond. Que faire ? Il y a la nécessité d'un temps d'arrêt. En écrivant sa prière, chacun, chacune raconte son histoire, réfléchit à ce qu'il faudra peut-être changer et aux prochaines étapes à poser. Ici, à la cathédrale de Lausanne, on peut tout mettre à plat. Les billets racontent les déserts intérieurs que certains, certaines traversent. Pudiquement, se révèle ce temps particulier à habiter. Mais dans ce désert, tout n'est pas mort. Il y a comme les traces d'une fine présence, une discrète présence qui veille. L'arbre sous lequel Elie se pose, un genêt, fait peut-être partie de notre propre paysage intérieur. Un soutien contre lequel s'appuyer lorsque l'on fait face à nos zones d'ombre ou que nous expérimentons le désespoir. Un espace aussi pour s'adresser à nouveau au divin. Dans cet édifice, les personnes osent nommer leur vulnérabilité, écrire leur colère ou le découragement qu'elles traversent. Mais surtout, elles apprennent à demander de l'aide.
Par rapport à cette notion de demander de l'aide, ça dit une aspiration à autre chose, ça dit le besoin d'un changement. J'ai souvent dit, et ceux qui me connaissent l'ont entendu, en termes de spiritualité, ma conviction profonde, c'est que le souffle d'un autre me constitue et que donc je dois faire de la place en moi pour un tout autre et pour d'autres que moi. Sans eux, sans leur présence en moi, je perds une part de ma propre identité. Faire de la place en soi, faire de la place à un autre que soi, est-ce que cette conviction résonne pour vous, Aurélie? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans les prières que vous avez étudiées?
Absolument. Se remettre en route grâce à la prière, c'est ouvrir la fenêtre à une brise rafraîchissante. En relisant le texte, je rencontre un Elie tout proche, si semblable. J'ai été frappée par la voix du Seigneur et sa question que l'on peut résumer par « Où en es-tu ?» Cette voix se fait entendre parce qu'Elie a vécu cette crise à la fois existentielle et spirituelle. Il est prêt à cette rencontre avec lui-même et cet autre qui veille. Mais Elie n'a pas encore tout à fait lâché une part délicate de son identité, peut-être celle à laquelle il tient le plus. C'est son fanatisme, sa certitude d'être celui qui connaît le divin mieux que quiconque. Mais la voix lui indique une direction. Il lui faut sortir de son enfermement intérieur comme de cette grotte. Il reste à Élie à expérimenter encore le plus important, écouter de tout son être le divin qui va se révéler à lui. Le vent, le tremblement de terre, le feu. Dieu n'est pas dans ce qui sème le chaos, nous dit le texte. Pourtant, vous l'avez entendu, dans son histoire, Élie a eu un faible pour ces manifestations spectaculaires de celles qui divisent les familles et la société. Mais, surprise, le divin se donne à être éprouvé comme jamais auparavant par Élie. Il se révèle comme un doux murmure, une caresse. Pour le percevoir, cela demande de l'attention, une sensibilité nouvelle et une pleine présence à soi. Voilà, maintenant Élie est prêt à repartir dans le monde. Ses prières rédigées entre les murs de la cathédrale font partie de ces rituels qui rompent la solitude et le sentiment de séparation. Chaque personne esquisse, stylo à la main, les prochaines alliances à retisser avec soi, les autres et le divin. Au cœur de la prière, une remise en route. Quelque chose change, ou plutôt, quelqu'un.
Dans ce que vous dites, Aurélie, comme dans le récit biblique, je reste sensible au fait que Dieu n'est pas dans les éléments traditionnels qui disent sa présence et potentiellement sème le chaos, le vent violent, le tremblement de terre, le feu. Par trois fois, il nous est dit que Dieu n'est pas là où on l'attend. Alors où est-il donc? Eh bien, ce qui me frappe, c'est qu'il se donne à reconnaître dans une voix ténue, dans une voix de fin silence. Ce qui me pousserait à affirmer ce matin que Dieu n'est pas ce grand maître de l'univers qui déchaîne les éléments pour dompter et mater les humains. Dieu se donne à rencontrer dans la vulnérabilité d'une parole. Une parole offerte, une parole humble, complexe, à interpréter encore et toujours, audible pour les uns, inaudible pour d'autres. C'est un pari osé. Venant de Dieu, ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais ici et bas, je crois que plus nous serons à accepter un tel credo, celui d'une parole offerte et non imposée, une parole humble, complexe à interpréter encore et toujours, plus nous serons à accepter cela, plus nous serons à grandir dans une capacité de dialogue qui nous permet de nous rencontrer plutôt que de nous affronter. Merci Élie de nous le rappeler et merci Aurélie pour le partage. Nous prions pour le monde.
Éternel, nous venons à toi dans la prière. Et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes.
Nous venons à toi dans la prière. Et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre pour faire place à d'autres que nous-mêmes.
Dans la confiance que tu nous écoutes et que tu nous rends capables d'agir, nous te prions pour le monde et les humains.
Nous remettons à ta tendresse et à ton amour celles et ceux qui subissent oppression et violence du fait de leur religion, de leur nationalité, de leur genre ou pour quelque autre raison que ce soit.
Celles et ceux qui grandissent et vivent dans des lieux où il n'est plus possible de concevoir que la joie et le dialogue existent.
Celles et ceux qui connaissent l'exil et qui trop souvent meurent avant d'atteindre une terre d'accueil, comme celles et ceux à Blatten ou ailleurs qui sont victimes de catastrophes dites naturelles.
Nous remettons à ta tendresse et à ton amour celles qui ont peur,
ceux qui ont faim,
celles qui sont seules,
ceux qui souffrent, tout particulièrement les familles de Suzanne, Valérie et Annabelle.
Nous remettons à ta tendresse et à ton amour les membres de nos communautés, nous qui sommes réunis et réunis dans cette cathédrale, celles et ceux qui nous écoutent.
Nous te remettons aussi dans le secret de nos cœurs les personnes que nous aimons et celles qui comptent sur notre prière.
Éternel, entends nos prières qui montent jusqu'à toi. Amen. Et durant le chant 34, l'offrande sera recueillie au profit du ministère de la cathédrale.
Dans le recueil Alléluia, c'est Chantons le jour de la victoire, le numéro 34-32.
Je vous invite à vous lever pour entrer dans la liturgie de la scène. Seigneur Dieu, Il est bon de nous réjouir en ta présence pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé. Il est venu nous apporter l'espérance dans laquelle l'Esprit nous invite à demeurer. Par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa résurrection, il nous ouvre les portes de ton royaume. Il nous invite désormais à vivre dans ta paix, parmi les chants de joie. C'est pourquoi avec les anges, avec les croyantes et les croyants de tous les temps, de tous les lieux, nous t'acclamons par notre chant.
Le chant du Sanctus au numéro 62-43.
Souvenez-vous, dans la nuit où il fut livré, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance nouvelle répandu pour la multitude en rémission du péché, faites ceci en mémoire de moi.
Nous prions pour faire mémoire et invoquer l'Esprit Saint. Ô Dieu, tu nous rassembles aujourd'hui comme un père réunit ses enfants pour refaire avec nous ton alliance et nous redire les mots de ta tendresse. En nous approchant de cette table, ne permets pas que nous te cherchions dans le ciel uniquement, mais guide nos regards, ici-bas, vers les plus petites et les plus petits. Par ton esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Par lui, donne-nous la joie, la force et l'élan que tu veux pour chacune et chacun d'entre nous. Et dans cet esprit, nous te prions.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le pain de tous les jours. Par Christ, il transforme notre quotidien. Voici le vin de tous les jours. Par Christ, il vivifie notre quotidien. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris.
Le chant de l'Agnus Dei maintenant au numéro 62-61 dans le recueil Alléluia.
Thank you.
Dieu a toujours choisi des hommes et des femmes pour parler en son nom. Il a tant d'amour à nous dire, tant de joie à nous partager, tant d'espérance à nous annoncer, qu'il a toujours cherché des hommes et des femmes pour porter sa parole. Aujourd'hui, il nous choisit. Avant de nous envoyer, il nous nourrit. Venez, car tout est prêt. Ce matin, exceptionnellement, nous communierons en défilé. Nous nous placerons au bas des trois places. En commençant par les premiers bancs, vous êtes invités à vous approcher par l'allée centrale et à regagner vos places par les bas-côtés. Quant à vous qui nous écoutez à la radio, si vous avez du pain, du vin, du jus de raisin près de vous, partagez le repas du Seigneur là où vous êtes et recevez déjà ces mots de bénédiction. Après le feu, il y eut une voix de fin silence. Aujourd'hui comme hier, Dieu vient à notre rencontre dans la vulnérabilité d'une parole qui met en route. Que cette parole creuse les sillons de notre chemin avec Dieu. Ce Dieu Père, Fils et Esprit nous accompagne en tout temps et en tout lieu. Il nous aime et il nous donne maintenant sa bénédiction. Amen. Amen. J'invite l'Assemblée à s'approcher, Aurélie, et puis Jérôme et Princy aussi. Merci.
L'heure est venue de quitter la cathédrale de Lausanne alors que la communauté réunie ici reçoit la communion. C'est la pasteur Lynn Desprats qui présidait la célébration. Elle a partagé la prédication avec Aurélie Netz. L'exposition dont cette prédication s'inspirait est visible ici à la cathédrale de Lausanne jusqu'au 25 juin. Pour la partie musicale, vous avez entendu et vous l'entendez toujours Jean-Christophe Geyser, l'organiste du lieu, et les vocalistes romans placés sous la direction de Renaud Bouvier. Pour les lectures, c'était Roger Clair, et du côté de la technique, Laurent Deschanet signait la prise de son, Bastien Testori gérait la continuité depuis les studios de RTS Espace 2. Quant à Cathy Mittal, c'est notre attachée de production. Pour écouter ce culte ou pour relire la prédication, il faut vous rendre sur le portail celebrer.ch ou alors sur l'application Play RTS. Et pour toute remarque, tout commentaire, toute question, un seul numéro de téléphone, le 058 134 12 12. Dimanche prochain, ce sera la fête de Pentecôte à 10h sur RTS Espace 2 pour le culte. Nous vous donnons rendez-vous une nouvelle fois ici à la cathédrale de Lausanne. Lynn Desprats, la pasteur, proposera une prédication intitulée « Heureux les dégonflés ». Tout un programme. Vous retrouverez Laurence Villot pour la présentation. Mais tout de suite, pour poursuivre votre matinée sur RTS Espace 2, c'est Babel. Ce dimanche, une question. Est-ce que l'Occident est vraiment judéo-chrétien ? Décryptage avec l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis au micro